C'est donc l'heure de la revue de presse que vous ouvrez, Marie-Pierre, aujourd'hui avec l'histoire de Caïn et Abel.
Et oui, Jonathan, une histoire à l'origine de nos violences, selon notre confrère Stéphane Bataillon, qui, dans la Croix de ce lundi et dans le cadre du grand dossier « Affronter la guerre, conquérir la paix », nous rappelle comment, de ce premier meurtre, découle tant de haine, de guerres et de violences. Pour preuve, s'il le fallait, depuis des mois et des mois, les sombres unes de nos journaux teintaient cependant cette semaine d'une lueur d'espoir, alors toute petite, mais tout de même. Alors reprenons pour cela les couvertures de la Croix. Lundi, discuter malgré tout. Mardi, Iran, États-Unis, un pas vers la paix. Mercredi, l'Ukraine reprend la main. Une édition dans laquelle vous découvrirez également le portrait de l'homme qui fait trembler la Russie. Allez regarder et observer sa photo. Yeux perçants, casquette militaire vissée sur la tête, barbe de patriarche et attitude féline. Tout comme un chat aux neuf vies, Robert Brodvy, 50 ans, en a déjà vécu une multitude. Aujourd'hui, commandant des forces ukrainiennes, son pilote, les drones, cet ancien homme d'affaires et collectionneur d'art dit Madiar, c'est-à-dire le hongrois, et qui toutes les nuits lance ses drones à longue portée sur la Russie, est devenu le cauchemar de l'armée russe. Nos drones, dit-il, sont la vengeance de l'Ukraine.
Guerre, vengeance, mais cette semaine, la Croix nous parle aussi de ces soldats qui ont rencontré Dieu au sein de l'armée.
Oui, un tatouage massif à l'encre noire sous un regard d'eau vive. Thomas, engagé dans un régiment de chasseurs parachutistes, pose fièrement devant le sanctuaire de Lourdes. Quelques instants plus tôt, au cœur de la basilique Saint-Pédis, bandé où bien des larmes ont coulé, il a reçu l'écharpe blanche des nouveaux baptisés. C'est au retour d'une mission à l'étranger que le Christ est venu chercher cet homme pudique qui se livre en quelques mots. L'armée, du point de vue religieux, ça peut être un tremplin, comme un mur, parce qu'on voit des choses dures. Mais la foi, ça rappelle que la mort n'est pas une fatalité. Loin des familles, près du danger, des questionnements affleurent. Que suis-je prêt à sacrifier? Que reste-t-il quand tout vacille? Le métier des armes confronte directement aux grandes questions de l'existence. La vie, la mort, le courage, la fraternité, le sens du service et de l'abnégation, conclut Mgr Antoine de Romanet, évêque aux armées.
Sans transition, parlons du premier jour du reste de la vie.
Oui, Jonathan, selon la formule d'Emery Christensen, directeur de la rédaction du magazine La Vie. Il nous informe que le magazine désormais ne paraîtra plus qu'une semaine sur deux, dans une version repensée et plus complète. Une occasion certainement pour la rédaction d'un nouveau départ, l'occasion de réaffirmer sa ligne éditoriale, c'est-à-dire poser un regard chrétien sur l'actualité, poser un regard curieux, ouvert et rempli d'espérance, à l'image du dossier de la quinzaine. Écoutez, l'Église des coachs, sont-ils en train de prendre le pouvoir? Eh bien, je vous renvoie pour cela à la lecture du reportage. Vous avez 15 jours. En lien avec la fête de la musique, Famille Chrétienne, pour sa part, braque les feux de la rampe sur ces chrétiens, chanteurs et musiciens qui occupent le devant de la scène, sur ces prédicateurs de la beauté, comme les appelait le pape François. Et puis, incontournable avec le magazine La Vie, retour sur la Coupe du Monde de foot. Ce 22 juin, l'équipe de France affrontera l'équipe d'Irak et son défenseur central, Rebin Soulaka. Chrétien de rite assyrien, Rebin Soulaka, né en Irak et qui a grandi en Suède, porte les espoirs d'une minorité rattachée à l'Église assyrienne d'Orient depuis le 5e siècle. Minorité religieuse marquée par les tragédies et l'exil, et ce bien avant Daesh. Rappelons-nous les génocides de 1915 en Turquie et de 1933 en Irak.
Et enfin, tous nos journaux nous invitent à résister.
Et à nous engager, Jonathan, avec Marc Bloch, qui ce mardi 23 juin, aux côtés de sa femme Simone, entrera au Panthéon. Ce patriote, ce combattant des deux guerres mondiales, ce résistant de la première heure qui sera arrêté, torturé puis fusillé le 16 juin 1944 par la Gestapo, fut aussi un immense historien. Le fondateur de la science historique contemporaine, comme le déclare dans les colonnes du Pèlerin, le professeur d'histoire médiévale Florian Mazel. Pour l'hebdomadaire, qui a choisi de mettre en lumière l'héritage de Marc Bloch, l'historien, c'est l'occasion de mesurer à quel point ses confrères actuels s'inscrivent toujours et encore dans ses pas. En un mot, résume Emmanuel Laurentin, journaliste d'histoire sur France Culture, celui qui a fait dialoguer géographes, économistes, sociologues, anthropologues, linguistes, celui qui, aux côtés de Lucien Febvre, a fondé l'École des Annales, reste tout simplement le patron. Juif non religieux, issu d'une famille d'intellectuels, ce saint laïc a incarné des idéaux à la résonance universelle, y compris pour des chrétiens inquiets des temps à venir, écrit Sixtine Châtrier, qui dans la vie de cette quinzaine nous invite à lire Marc Bloch, les rois thaumaturges, les tranches des fêtes. À lire ou à relire, car selon Nathalie Lacube de La Croix Hebdo, mieux connaître Marc Bloch permet de s'émerveiller devant le mystère d'une vie accomplie. Et de nous inviter alors à nous rapprocher au plus près de l'âme de cet homme intègre et exigeant, de cet ardent défenseur de la vérité, de ce patriote allé jusqu'au sacrifice ultime et qui écrivait peu de temps auparavant dans l'étrange défaite. La France, dont certains conspireraient volontiers à m'expulser aujourd'hui, demeurera quoi qu'il arrive la patrie dont je ne saurais déraciner mon cœur. J'y suis né, j'ai bu aux sources de sa culture. J'ai fait mien son passé, je ne respire bien que sous son ciel et je me suis efforcée à mon tour de la défendre de mon mieux. Et nous, plus de 80 ans après, à quoi sommes-nous prêts ? S'interroge Bruno Bouvet dans son édito de La Croix Hebdo.